votre écoute de RFI, il est 7h30 en temps universel, 10h30 à Moroni, le journal.
RFI Matin.
Nouveau point complet sur l'actualité africaine avec Vincent Dublange. Et à la une, les 50 ans de l'indépendance aux Comores, à la une donc de cette édition.
Oui, exactement, Pierre, avec un témoignage d'un acteur de l'époque de l'indépendance, ému par les souvenirs du passé, frustré par le présent et le grand absent de l'union politique des Comores, à savoir l'île de Mayotte. Nous sommes à Libreville, au Gabon, dans cette édition, au lancement du tout nouveau parti du président Brice Clotaire-Oligui Nguema. Une enquête démontre la responsabilité de Socfin, la société financière des caoutchoucs, dans l'exploitation de la terre et de ses riverains, notamment dans plusieurs pays d'Afrique. Et puis le journal des sports, dans 10 minutes, la CAN féminine de foot, notamment à la une, mais aussi la défaite du Dortmund de Serhou Guirassy 3-2 contre le Real Madrid à la Coupe du Monde des clubs. Et d'abord ce goût amer en ce 6 juillet, malgré la fierté aux Comores, 50 ans après l'indépendance, déclarée unilatéralement, reconnue par la France plus tard, mais seulement sur 3 îles sur 4, Mayotte demeurant administrée par Paris. D'où une joie teintée d'amertume en ce 6 juillet, exprimée par Ahmed Mohamed Tabit, militant politique pour l'indépendance, qui deviendra par la suite haut fonctionnaire aux Nations Unies et ambassadeur des Comores. Il fait marcher pour nous la machine à souvenirs.
Moi, je faisais partie d'un parti qui s'appelle PASOKO, qui réclamait et qui mobilisait, qui sensibilisait la population pour l'indépendance. Donc, quand on a appris que Mme Abdallah allait déclarer l'indépendance, la Chambre des députés, avec enthousiasme, nous sommes allés là-bas. On n'était pas sûr que Mme Abdallah vraiment allait défier la puissance coloniale française et déclarer l'indépendance. La Chambre des députés ne pouvait pas contenir tout le monde. Beaucoup de gens étaient à l'extérieur et toute la place était envahie de gens. Vraiment, c'est l'euphorie. Tout le monde était très content. Les gens criaient « Ourou, ourou, ourou !» Vous voulez dire « Indépendance, 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 indépendance !» Mais cette satisfaction était un peu éphémère. Parce que tout de suite après la déclaration unilatérale d'indépendance, la France reconnaît l'indépendance des trois îles, mais on garde Mayotte. La déclaration unilatérale d'indépendance des Comores a été accueillie par toute l'Afrique.
Et par les Nations Unies.
Et par les Nations Unies.
Le retour de Mayotte, ça reste un combat.
C'est un combat. Tous les Comoriens, ils veulent absolument que Mayotte réintègre.
Et pour les cérémonies à Moroni, signalons que la présidente tanzanienne est attendue sur place, une vingtaine de délégations également, une française ou une marocaine encore. Au Libéria, le président Joseph Boakai présente les excuses de l'État pour la violence et les traumatismes causés par les deux guerres civiles entre 89 et 2003, 250 000 morts. Joseph Boakai s'exprimait hier lors d'une cérémonie de réconciliation dans la capitale, Monrovia. Le président libérien qui appelle à mettre en œuvre les recommandations clés de la Commission de vérité et réconciliation de 2009. Et parmi ces recommandations, la création d'un tribunal pour juger les crimes de guerre. 19 condamnations au Togo suite aux manifestations jugées illégales par le pouvoir. La semaine dernière, la justice s'est prononcée avec des peines d'un mois ferme pour 19 personnes, donc 11 mois de sursis également. Des peines critiquées par les avocats des prévenus pour qui il n'y a aucune base légale solide. 12 prévenus ont été libérés par ailleurs. Le ministre togolais de l'administration territoriale, lui, estime qu'il s'agissait avec ces manifestations de troubler l'ordre public et que seuls deux quartiers finalement de Lomé avaient répondu à ses appels à ce qu'il a qualifié, je cite, de soulèvement. Au Gabon, je vous le disais en titre. Et comme annoncé, l'Union démocratique des bâtisseurs est née. L'UDB, c'est le nouveau parti politique créé par le chef de l'État, Brice Clotaire-Oligui Nguema. L'Assemblée générale constitutive a eu lieu hier devant plusieurs milliers de personnes, avec une forte présence d'anciens cadres du Parti démocratique gabonais, le Parti des Bongos, que l'ancien général Oligui a renversé voilà quasiment 2 ans. Pour autant, Yves-Laurent Goma, le président gabonais, plaide la rupture avec les vieilles pratiques.
Dans un discours d'une demi-heure, Brice Clotaire-Oligui Nguema a décliné l'identité de son parti qu'il dit sociodémocrate. Ses militants s'appellent donc démocrate bâtisseur, auteur du coup d'État qui a mis fin à 56 ans de règne sans partage du PDG, le parti des Bongos. Oligui Nguema a averti que l'UDB ne sera pas une machine de confiscation du pouvoir.
Je ne souhaite pas créer un parti électoraliste qui instrumentalise les élections. Je souhaite avoir un parti qui m'accompagne et non un outil politique qui va être un gouffre dans lequel je dois monnayer des majorités ou des consensus.
Les proches d'Oligui Nguema saluent la naissance de ce parti.
C'est une bonne chose pour le président Brice Clotaire-Oligui Nguema d'avoir cet outil politique. C'est une bonne chose.
Créer ce parti ne fait que renforcer le processus démocratique dans notre pays.
très nombreux dans le palais des sports, les jeunes sont plutôt sceptiques.
Si on retrouve encore tous les cas du PDG encore dans son parti, bon, comme tout le monde dit, c'est un PDG bis.
Beaucoup de gens sont venus nous mettre beaucoup d'espoir, mais au final, rien.
Le parti devait présenter des candidats aux élections législatives et locales prévues dans 6 mois si le ministère de l'Intérieur lui délivre toutes les autorisations. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI.
En RDC, le cap est maintenu dans le programme avec le Fonds monétaire international malgré la forte pression financière de la guerre dans l'Est. La RDC a satisfait à la première évaluation du programme avec le FMI et du coup l'institution va décaisser immédiatement plus de 260 millions de dollars. Le FMI toutefois, Patient Ligaudy, reste préoccupé.
Le FMI reconnaît la bonne performance de la RDC dans la collecte recette. Mais malgré cela, les finances publiques ont enregistré un déficit plus important que prévu. Calixte Aoposi, chef de mission du FMI pour la RDC, explique.
Le critère avait été fixé à environ 522 milliards de francs congolais, c'est-à-dire à peu près 200 millions de déficit. Mais en réalisation, ce qui s'est passé, les recettes ont tenu, mais les dépenses ont été plus larges que prévu. Donc du coup, le déficit s'est creusé et s'est fixé à environ 600 millions de dollars.
Face à cette situation, le gouvernement congolais a revu son budget. Il a adopté un collectif budgétaire pour s'ajuster à la conjoncture. Objectif, rendre le budget plus réaliste. Pour préserver les équilibres et rediriger les investissements vers les secteurs porteurs, le FMI insiste sur la nécessité de mettre en œuvre l'accord de paix signé à Washington le 27 juin dernier.
Le Fonds monétaire international espère que cet accord va apporter une paix véritable pour permettre à la RDC et à ses voisins de se tourner résolument vers leurs objectifs de développement.
Dans cette logique, le Qatar et les États-Unis appellent Kinshasa et l'AFCM23 à signer dans les prochains jours à Doha un accord complémentaire à celui de Washington.
La dernière ligne droite avant les élections. En Côte d'Ivoire, la période d'enregistrement vient de débuter. Elle dure jusqu'à fin août pour une élection en octobre avec hier à Yopougon un meeting de Simone Eyvet, fête des libertés pour son parti, le mouvement des générations capables, 3e édition. Reportage sur RFI.fr. Tandis qu'au Cameroun, même mois pour les scrutins, et notamment l'élection présidentielle, les opérations d'enrôlement se poursuivent et l'ECAM, l'organisme public, est à la manœuvre, mais aussi la société civile. Reportage Richard Onanena.
Centre de santé, marché, carrefour, à quelques jours de la clôture du processus d'inscription, les agents de l'ECAM occupent le terrain. Au quartier briqueterie à Yaoundé, leur présence a motivé Moussa à s'inscrire sur les listes électorales.
Aujourd'hui, après la prière, nous allons pouvoir nous inscrire pour voter, parce que c'est la chose la plus importante à faire.
Sur le terrain, plusieurs initiatives accompagnent le processus d'inscription. Cyril Roland Béchon a initié une plateforme qui relaie les différents lieux d'inscription auprès des futurs électeurs.
Nous avons travaillé avec l'ECAM pour obtenir le planning des descentes pour les inscriptions de proximité. Nous informons les animateurs de proximité. Nous essayons de partager au maximum pour informer les populations.
De leur côté, les mouvements citoyens, cartes d'électeurs et protège ton vote font actuellement le tour du pays pour sensibiliser les jeunes sur les questions électorales.
La campagne porte effectivement sur l'inscription massive sur les listes électorales. Le deuxième point, c'est que les gens récupèrent effectivement leur carte d'électeur. Le troisième point, c'est que les gens aillent massivement voter. Et le quatrième point, c'est que les gens s'engagent à surveiller leur vote.
D'après les dispositions en cours, le corps électoral devra être convoqué au plus tard le 12 juillet. Ensuite, le dépôt des candidature devrait se faire jusqu'au 22 juillet pour des élections prévues en octobre. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Le Cameroun, concerné par une enquête internationale qui confirme la responsabilité de la société financière des caoutchoucs dans des cas d'abus dénoncés par des communautés riveraines, à la fois en Afrique et en Asie, entre 2023 et 2025. C'est ce que nous apprend le site d'information en ligne Mangabey, Igor Strauss.
Les investigations menées par le cabinet Earthworm Foundation dans 12 des plantations de la société financière des caoutchoucs en Afrique et en Asie ont révélé que la majorité des dénonciations contre Socfim et ses filiales étaient fondées ou partiellement fondées. Au total, 139 plaintes ont été déposées par les communautés travaillant dans les plantations de palmiers à huile et d'EVA au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Nigeria et en Sierra Leone. Critiqué pour sa gestion controversée de ses plantations à travers le monde, Socfim a commandé des enquêtes à Earthworm Foundation en 2023 pour vérifier les allégations à son encontre. 2 ans plus tard, le verdict est tombé et a confirmé ses accusations, ce qui a conduit Socfim à créer des plans d'action pour lutter contre ces différents abus. Mais le 1er juillet de cette année, 33 organisations de défense de la nature et des droits humains ont publié un communiqué déplorant l'absence d'implication des communautés victimes dans l'élaboration de ces plans. Pour les ONG, c'est aux communautés de suivre la mise en œuvre des plans élaborés par SOCFIN. Enfin, elles exhortent la holding luxembourgeoise d'aller plus loin et plus vite.
Dans deux minutes, le journal de l'espoir, on sera à la CAN féminine de foot au Maroc. Mais le Maroc, c'est aussi le jeu virtuel avec la deuxième édition de la Morocco Gaming Expo qui illustre bien les ambitions du royaume pour son industrie du gaming. Reportage Mathias Reynal.
Des robots distributeurs de bouteilles d'eau, une décoration futuriste tout en néon. Au Palais des Sports de Rabat, le jeu vidéo marocain veut se présenter sous son meilleur jour.
C'est une industrie qui grandit rapidement au Maroc. On aura bientôt de nombreux jeux vidéo marocains qui battront des records.
Le royaume mise sur les jeunes créateurs indépendants comme Marwan, 23 ans pour faire naître cette industrie.
J'ai commencé à développer des jeux il y a 5 ans en autodidacte. Maintenant, je veux créer mon propre studio de production.
À 40 ans, Rachid Lansari vient justement de passer de créateur de jeux amateur à patron de la start-up Kelbox.
C'est à travers notre culture qu'on pourrait avoir une identité vidéoludique internationale. C'est comme ça qu'on pourra s'exporter ailleurs. Et c'est comme ça qu'on aura vraiment du soft power concret, tangible. Le Maroc est en train de se placer comme leader, comme vrai hub africain.
Depuis quelques mois, le ministère marocain de la culture s'active pour structurer davantage le secteur. Mathias Reynal, de retour de Rabat.
Et Mathias Reynal qui nous fait vivre aussi en ce moment avec François Ferkataji, notre autre correspondant au Maroc. La Coupe d'Afrique des Nations Féminines de Foot et Victor Mistrano vient de s'installer dans ce studio. Il est avec nous dans un instant, Pierre Boudias.
Merci Vincent.